Zamba.
Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonsoir, bonjour, selon la position de votre écoute, la radio Inzamba vous suit partout dans les quatre coins du monde. Nous sommes dimanche le 15 mai 2022, c'est le moment de la rétrospective de la semaine. Bienvenue. En page de justice pour ouvrir cette édition, c'était un procès jonché de plusieurs irrégularités. Il s'agit là du procès rendu dans le dossier du putsch manqué du 13 mai 2015 contre le pouvoir de Pierre Nkurunziza. 7 ans après, Maître Janvier Bigirimana, un juriste, déplore les condamnations prononcées arbitrairement contre des personnalités politiques, des acteurs de la société civile, des avocats et certains journalistes. Pour lui, le procès rendu revêtait un cachet politique. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a plutôt utilisé les instances judiciaires comme outil de répression politique. Suivez.
La tentative de coup d'État de 2015 a été opérée et assumée par un certain nombre de militaires et de policiers qui relevaient de l'armée burundaise, mais aussi de la police nationale du Burundi. Les principales irrégularités sont en fait notamment que lors de l'accusation, on a mêlé un certain nombre de personnes qui n'avaient pas de lien évident dans la commission de cette tentative de coup d'État. C'est le cas notamment de certaines personnalités relevant de la société civile ou des médias, mais aussi de certaines personnalités politiques qui, visiblement, n'avaient pas un lien évident avec les militaires ou les policiers qui étaient impliqués dans cette tentative. Ce qui est curieux, et c'est que l'ensemble des personnalités qui ont été poursuivies et condamnées sont soit des leaders des médias, des leaders de la société civile ou des leaders des partis politiques de l'opposition qui avaient effectivement été impliqués dans la dénonciation soit des crimes qui étaient commis depuis 2015, soit dans les manifestations qui ont eu lieu en 2015. Le fait que l'ensemble de ces personnes ont été impliquées comme ayant commis un coup d'État, alors que ce lien ou la participation effective n'avait pas été démontrée, et ça montre tout simplement que l'instruction qui a été menée par le procureur général de la République et le ministère public a été biaisée à plus d'un titre. Une autre irrégularité, c'est que il n'y a pas eu d'audience publique. Les personnes qui avaient fui le Burundi non seulement n'ont pas été entendues, mais tous les émissaires qui avaient été envoyés, notamment les avocats, qui étaient commis pour pouvoir analyser les éléments du dossier, ils n'ont pas pu avoir accès au dossier, mais par contre, ils ont subi des représailles telles que ils ont même abandonné dans la suite de faire quoi que ce soit dans son dossier.
Certaines personnes condamnées à perpétuité dans ce dossier sont en exil. Cet avocat indique que le procès devrait tout simplement être annulé pour privilégier une solution plutôt politique. On écoute encore une fois Maître Janvier Wigiliman.
Je demanderai plutôt aux autorités burundaises d'engager des négociations avec toutes les personnes qui étaient poursuivies parce que le monde entier, la communauté internationale, le peuple burundais savent pertinemment que ces personnes n'ont commis aucune infraction et qu'elles sont poursuivies seulement pour des fins politiques par le régime au pouvoir aujourd'hui.
Au lendemain de cette tentative de putsch, 4 médias indépendants ont été littéralement détruits par le pouvoir. La justice burundaise n'a rien fait pour que la vérité soit connue. C'est ce que déplore Innocent Mohosi, directeur de la radio-télévision Renaissance, un des 4 médias qui ont été incendiés le 14 mai 2015. Il indique que cela a condamné une centaine de journalistes burundais en exil, où ils continuent toutefois à exercer dans des conditions difficiles. On écoute plutôt Innocent Mohosi.
Nous sommes à la 7e année depuis l'attaque dans la nuit du 13 au 14 mai par la police et l'armée nationale qui ont attaqué les 4 médias indépendants du Burundi. Ils ont commencé par Télé-Renaissance, la RPA, Bonesha, puis ont terminé par les Sanganiro. Ça a été une entreprise de destruction dans le cas de Télé-Renaissance et de la RPA où ils ont même mis le feu. Ils ont été attaqués à coups de mitrailleuses, de lance-roquettes, de grenades et puis ils ont incendié. La RPA a complètement été calcinée. Ça n'a pas été le cas de la Renaissance parce que le bâtiment est totalement en béton. Donc, il y a juste ce qui était là, le parking qui a brûlé, qui a été détruit. Et puis, Sanganiro et Bonesha ont pu reprendre les activités parce qu'encore une fois, à la suite de cette attaque-là, le procureur général de la République, quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait, tant bien que mal, réactiver nos activités dans nos bâtiments, a sorti une décision d'interdiction d'accès à ces bâtiments, prétendument pour raison d'enquête, alors que c'est l'État lui-même qui nous a attaqués. Donc depuis ce jour-là, le bâtiment de la RPA est toujours dans l'État où il était. Télé-Renaissance, c'est pareil, sauf que pour le Télé-Renaissance qui n'avait pas été très touché par l'incendie, tout ce qui était dedans comme matériel, du matériel de diffusion, des émetteurs, des régies, radio et TV, des archives, etc., beaucoup, beaucoup de choses qui étaient encore à l'intérieur, du matériel neuf notamment qui n'était pas encore en exploitation, a été systématiquement pillé. La maison a été proprement nettoyée, alors qu'elle était sous la garde de la police depuis cette décision du procureur général de la République. Une centaine de journalistes sont donc partis en exil pour sauver leur vie, mais aussi pour sauver leur métier. Et depuis ce temps-là, nous travaillons sur les réseaux sociaux. La presse à l'intérieur du Burundi est une presse de survie qui ne peut pas toucher les questions vraiment sensibles, qui ne peut pas toucher sur les questions qui préoccupent fondamentalement les Burundais. Les gens font le service minimum dans les limites qui leur sont fixées. Mais la liberté de presse n'est pas morte pour autant parce que les médias, les journalistes qui sont partis en exil ont pu continuer à travailler et à informer les Burundais via les réseaux sociaux, via les médias numériques. Ça limite l'audience parce qu'il y a beaucoup de Burundais qui n'ont pas accès à Internet, mais en même temps, ça permet malgré tout à ce que l'information continue à circuler grâce à la résistance de ceux-là qui sont partis en exil et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
L'ouverture au dialogue annoncée par le président de la République n'en est pas une. Avis de Charles Nditije, président du parti UPRONA, qui n'est pas reconnu par le pouvoir de Gitega. Pour lui, seul le dialogue inclusif peut amener la paix au Burundi, un espace de discussion de toutes les questions qui empêchent les réfugiés de rentrer. Plus de détails avec Vanessa Muhitek.
Dans la conférence de presse de ce mardi, le président de la République Évariste Ndayishimiye a annoncé l'ouverture du dialogue avec ses opposants politiques pour promouvoir le développement du pays.
Que ce soit Red Tabara ou autre groupe, le gouvernement est prêt à dialoguer avec n'importe qui pour essayer de trouver la solution à tous les problèmes qui puissent surgir. Supposons que parmi ceux qui viendront, vous y trouvez ceux qui ont décimé les membres d'une quelconque famille. Quand les victimes le voient en liberté, elles s'inquiètent et cela peut provoquer une justice populaire. Et c'est l'État qui en sera responsable. Aujourd'hui, la conscience de tous est de construire le pays. J'observe souvent ceux qui, auparavant, avaient une mauvaise langue, mais aujourd'hui, ils se disent qu'il faut s'atteler à la construction du pays. Même ceux qui sont en Europe, comment pensez-vous que ces politiciens rentrent? Nous avons d'abord dialogué, et pour vous dire que même si vous avez commis une infraction quelconque, vous devrez penser à rentrer, car dit-on dans l'adage Girondi, Igitogitabkiwabo.
L'annonce du président de la République est un pas en avant, selon Charles Nditije, président du parti UPRONA non reconnu par le pouvoir de Gitega. Mais a-t-il précisé qu'il y a encore du pain sur la planche?
D'un côté, nous saluons cette orientation, mais de notre point de vue, cela ne suffit pas. Pour qu'il y ait des discussions, des négociations, des échanges, il y a des préalables. Il faut d'abord qu'il y ait un environnement politico-sécuritaire favorable à ce type de dialogue. Il faut que la paix règne un peu partout dans le pays. Il ne faut plus qu'on entende ici et là des arrestations arbitraires, des emprisonnements arbitraires, des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires liées à l'appartenance ethnico-politique de ces gens-là qui sont arrêtés uniquement à cause de leurs opinions ou de leur appartenance ethnique. Cela n'est pas de nature à inciter les opposants extérieurs à rentrer au pays.
Pour parler d'un vrai dialogue, Charles Nditije trouve qu'il faut un calendrier, la liste des questions au centre du débat, le lieu de rencontre, un facilitateur, un compromis qui devrait par après être mis en application.
Il ne faut pas que le président ou le CNDD-FDD négocie avec tantôt celui-là, tantôt celui-ci, parce que celui-là ou celui-ci est fatigué par le long séjour en exil, les conditions de vie très, très, très difficiles. C'est un peu comme s'il acceptait de dialoguer avec ceux qui sont fatigués ou capitulent en quelque sorte. Ce dialogue devrait être porteur de résultats palpables. Il faut que le gouvernement accepte de négocier avec les coalitions des partis politiques, avec les associations de la société civile, qu'on crée ensemble un cadre de dialogue qui soit reconnu, qu'ensemble ils puissent discuter du cadre approprié pour ce dialogue, l'agenda de ce dialogue, les points à négocier avec un calendrier, un arbitre, une sorte de facilitateur qui puisse veiller à ce que parmi les gens qui dialoguent, il n'y en ait pas qui veuillent imposer leur point de vue et qu'ensemble puissions trouver les voies et moyens de sauver le pays qui est au bord de la catastrophe.
Jean-Denis Tizé indique en outre que ce sera dûment facile du moment que le président lui-même a participé dans le dialogue du genre dans le passé. D'abord en tant que négociateur en rébellion et après en tant que délégué du gouvernement dans le dialogue avec le Parti Hutu FNL.
Inzamba. La campagne de recensement des motos, vélos et tricycles, appelés communément tuk-tuk, qui ne sont pas utilisés dans des affaires de commerce, ont été caractérisées par plusieurs illégalités. Cela a été annoncé lundi par Gervais Villacobuchal, le ministre en charge de la sécurité publique. C'était lors d'une réunion d'évaluation de cette mesure de retrait de ces moyens de transport en mairie de Bujumbura. Le ministre trouve plutôt que ce recensement a été mal exécuté. On écoute Gervais Villacobuchal.
Hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyigura.
Il y a des gens qui ne veulent pas que cette ville soit en ordre dans le domaine de transport. La raison est celle-ci. Sur base des statistiques de recensement, on a constaté que les chiffres des outils de transport qui demandent l'autorisation privée sont 1813 motos, on a aussi recensé 13711 vélos de sport et 5874 petites motos.
Nous
habitons tous dans cette ville. Les administrateurs sont ici et les chefs de zone. Est-ce que réellement ces outils existent dans cette ville? Ou bien ce sont les outils auxquels nous avons fixé leur délimitation dans la ville qui sont venus de nouveau pour se faire réinscrire? Et réfléchissons ensemble ce qui est caché derrière ces chiffres afin de trouver une solution.
Dernier dossier de cette édition, 6 athlètes burundais vivant dans le camp des réfugiés de Mahama ont besoin d'une aide de plus de 700 000 francs burundais pour participer dans la compétition d'athlétisme baptisée Kigali International Marathon qui se tiendra à Kigali le 29 mai de cette année. Ferdinand Niyonsa, le président de l'association d'athlétisme à Mahama, fait savoir que l'ONG Save the Children, qui les appuyait, leur a signifié qu'elle ne dispose plus de moyens financiers. La non-participation pour eux serait une perte énorme, surtout qu'en 2017, ils avaient réalisé de bons résultats. On écoute Ferdinand Niyonsa.
Nous avons besoin d'un plaidoyer à notre faveur, car nous avons une compétition le 29 mai 2022, appelée Kigali International Peace Marathon. Chef de Children qui nous donne des sponsors n'a pas accepté de nous prendre en charge durant cette compétition. Nous voudrions donc des organisations, des associations ou des gens de bon cœur qui puissent nous aider pour ce qui est des équipements, des freins de restauration, hébergement, d'inscription et de communication, ainsi que des frais de transport et aussi du test de COVID.
Et voilà, c'est sur ce message des athlètes de Mahama que nous mettons fin à cette édition de la rétrospective de cette semaine. Merci à vous tous, chères auditrices, auditeurs, de nous avoir prêté oreille attentive et surtout pour votre fidélité. Alexandre Minouyeko à la présentation. Je vous souhaite de passer une agréable soirée ou une agréable journée selon la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.
Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.